Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Voilà, nous allons méditer un texte qui se trouve dans l'épître de Paul, où on dit la lettre de Paul aux Philippiens, et j'aimerais justement que nous nous entretenions sur une situation qui est certainement et bien commune aux hommes. C'est en quelque sorte tout ce qui reste parfois au fond de notre vie, au tréfonds de notre vie, et dont nous avons du mal à nous débarrasser, et qui constitue des souffrances et des blessures. Alors on va lire donc dans Philippiens chapitre 3, voilà pour la situation, et c'est Paul qui nous livre son histoire, et il s'ouvre finalement à ses lecteurs d'hier et d'aujourd'hui, et il nous parle de sa vie, ce qui a été sa vie, et ce qu'il a pu connaître naturellement. Alors il y a des choses qui sont heureuses, puis il y a des choses qui sont plus difficiles à évacuer. Alors il nous donne véritablement un véritable conseil qui peut nous aider nous aussi. Alors Philippiens chapitre 3, et il s'exprime de cette manière. Il dira « Moi aussi, cependant, j'aurai sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, dans son humanité, si vous aimez mieux, je le puis bien davantage, moi, circoncis le huitième jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu quant à la loi, pharisien quant aux zèles, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. » Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ, et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Et puis maintenant, je vous propose le verset 12, parce que c'est lui qui va être l'objet de notre méditation. Et il ajoute, Paul ajoute, « Ce n'est pas que déjà j'ai remporté le prix, que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Voilà pour la situation de Paul, et qui ouvre en quelque sorte son cœur. Et il y a un mot-clé dans ce que nous avons lu. Il nous dit ces paroles, oubliant ce qui est en arrière. C'est pas facile d'oublier ce qui est en arrière de nous, hein. Quelquefois, il y a des situations qui sont véritablement attachées, qui ont marqué notre vie profondément, qui nous ont vraiment endommagés, on peut dire. Et qui aujourd'hui, là, nous avons du mal à relever la tête, hein, et de dire, eh bien, il faut que je regarde devant moi, mais il y a tant de choses derrière moi. Tant de situations qui ont été des situations blessantes, humiliantes. Nous avons laissé des gens derrière nous, c'est vrai. Nous avons commis des erreurs. Nous avons pu faire des fautes, c'est très humain tout ça, hein. Et puis, il y a des moments, ça nous revient, par des circonstances de la vie, par des situations qui se présentent tout à nouveau, et on se dit, oui, mais c'est vrai qu'il y a eu ceci et cela, et ça nous fait mal. Et c'est quelquefois cyclique, vous savez, parce que notre vie, elle est vraiment réglée avec le calendrier, hein, en quelque sorte, hein. Les ans sont marqués par des fêtes, les années sont marquées par des fêtes, enfin des fêtes F-A-I-T-S, hein. C'est pas toujours la fête, hein. Mais il y a toutes sortes de situations qui nous rappellent telle ou telle chose. Alors, l'apôtre Paul nous parlera de son histoire. Il nous parlera de son histoire, il dira, mais moi, j'étais ceci, j'étais cela. Et c'est vrai que c'était pas n'importe qui, Paul. Avant, il s'appelait Saul de Tarse, avant de se convertir à Jésus-Christ. Et c'était un homme qui se caractérisait, il le dit d'ailleurs lui-même, vous l'avez lu avec moi. Il dit, si je devais me glorifier, eh bien, je dirais que j'ai fait ceci, j'ai fait cela, et que j'ai eu du succès, que j'ai eu des réussites dans ma vie, que j'ai affirmé mon caractère et ma personnalité. Et j'ai quelquefois certainement fait du bien, mais j'ai fait beaucoup de mal aussi. Alors, il l'explique de cette manière, il dit vraiment « je suis un juif, un vrai juif ». Il n'y en a pas beaucoup comme moi, hein. Mais là c'était dans ces périodes où il s'imaginait être le seul sur la terre. Vous comprenez, il y a des gens qui s'imaginent qu'ils sont les meilleurs, les plus beaux, les plus intelligents. Et vraiment, ils ne retiennent que ça. Mais lui, à un moment donné, sa vie a complètement changé, elle a complètement basculé. Ça arrive quelquefois, hein, que notre vie, à la suite d'un accident, d'une maladie, des circonstances imprévisibles, des choses que nous n'avions certainement pas pensées à l'avance, et qui nous tombent sur la tête et qui vont vraiment bouleverser notre vie. Et c'est ce qui lui est arrivé. On appelle ça la rencontre de Paul sur le chemin de Damas. Et il a fallu qu'il tombe par terre, mais vraiment par terre physiquement, pour goûter un petit peu ce que c'était que la poussière, la misère, la souffrance des hommes, pour qu'à ce moment-là, eh bien, vraiment, il change complètement et totalement. Vous vous rendez compte, il le dit, à un moment donné, il dit « j'étais un persécuteur ». Persécuteur, c'est-à-dire qu'il a fait du mal aux autres. Et il l'avait avec une certaine autorité qu'il avait reçue, et il ne se gênait pas de, vraiment, de faire ce qu'il avait à faire. Mais au bout d'un certain temps, quand sa vie a changé, il s'est dit, mais là, il a commencé à réfléchir. Comme nous, ça nous arrive de réfléchir et de voir peut-être que nous avons fait beaucoup plus de dégâts que nous n'avions pensé en faire. Parce que il y a toujours, en matière militaire, il y a toujours la bombe qui tombe dans un endroit, et puis il y a tous les dégâts latéraux, et ça va quelquefois très loin. Quand les gens ne meurent pas, quelquefois ils restent blessés à vie, hein, à cause d'une langue, mauvaise langue, à cause de gestes, à cause d'abandon, à cause de trahison, à cause de toutes sortes de choses. Ça, c'est la vie des hommes. Alors, quelquefois, on se dit, bien, je lui ai réglé son compte, c'est bien fait pour lui. Mais ça peut tuer beaucoup plus que un coup de revolver, hein, ça. Hein, parce que ça reste dans l'existence. Les gens sont marqués dans leur esprit. Ils sont marqués dans leur âme, dans leur cœur. Ils sont surtout marqués dans leur mémoire. Et ça, ils ne l'oublient pas, parce qu'à chaque fois qu'ils veulent l'oublier, ou quand ils ont tendance à l'oublier, ça revient au galop, et ils sont deux fois plus malheureux. Vous savez, si on questionnait les gens, aujourd'hui, on en aurait à entendre des histoires. Moi, j'en entends des histoires, en tous les cas. Et il y a des gens qui nous racontent. Il y a des gens qui racontent tardivement leur histoire. Moi, je me souviens, et je vous l'avais déjà dit, une femme, à 60 ans, était venue nous voir. Elle avait été violée dans son enfance. Et elle avait toujours gardé le secret parce qu'elle se disait « Non, c'est pas possible, je ne peux pas. La coupable, c'est moi. » Parce que c'est souvent ça, hein, dans ce genre d'affaires. Hein. « La coupable, c'est moi. » Et elle a attendu 60 ans venir dans les réunions comme et puis avec mon épouse, elle nous a dit « Je voudrais vous parler. » Et elle nous a raconté son enfance, son adolescence et les choses qui s'étaient passées. Et elle pleurait en nous racontant cela. Elle disait, mais j'ai vécu comme ça pendant 60 ans de ma vie, enfin 50 ans de ma vie, et elle était profondément malheureuse. C'est pour dire que il y a des choses qui sont terribles dans la vie. Vous savez, on peut s'imaginer que tous ceux qui sont sortis des camps de concentration, qui ont vécu pendant 2, 3 ans, 4 ans peut-être, et qui ont vécu ce qu'ils ont subi, ce qu'ils ont vu particulièrement, eh bien aujourd'hui, c'est pas des gens qui sont... C'est vrai. On ne peut pas dire qu'ils sont indemnes, hein. Ils ne sont pas ressortis indemnes de tout cela. Alors, l'apôtre Paul, lui, eh bien, a raconté un peu son histoire. Et il en a pris conscience, parce qu'il y a des gens qui ont fait du mal, mais qui ne prennent jamais conscience. Et jusqu'à la fin, il continuera à faire du mal, en pensant qu'ils sont innocents, qu'ils n'ont rien fait. Mais Paul, ce n'est pas ce qui s'est passé. À un moment donné, eh bien, il s'est dit, moi, j'étais un persécuteur, hein, de l'Église. Et... il va prendre les choses à l'envers, enfin, dans le bon sens. Avant, il les prenait à l'envers, et maintenant, il va dire, mais je crois pas que j'ai remporté la course. Hein. Ma vie, elle était ainsi, mais aujourd'hui, eh bien, les choses sont tout à fait différentes. Et maintenant, j'ai envie que ma vie prenne une autre orientation, qu'elle change de cours. Hein. Vous savez, quelquefois, comme on le chante, il y a un petit cantique qui dit ceci, tu peux repartir à zéro. Hein. Tu peux tirer un trait sur ta vie, et recommencer, tout recommencer. Les hommes ne nous donnent pas cette chance quelquefois. Hein. Tu as fait une erreur, c'est fini pour toi, tu ne recommences plus. Mais on sait que Dieu eh bien, est toujours prêt pour nous donner une nouvelle chance. Et quelquefois, s'il doit le faire une fois, deux fois, trois fois, il le fera encore. Mais bien sûr, il faut croire en lui. Alors il dira ceci, « Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, eh bien maintenant je cours vers l'avant. » Remarquez, c'est difficile de courir quand on regarde devant et que courir en arrière, hein. Parce que là, on va certainement avoir des obstacles et des murs, hein. Ça, c'est impossible à faire. Mais il y a des gens qui essaient de conjuguer tout ça. Ils veulent garder leur histoire. Ils veulent garder leur vie d'avant. Et en disant, bien, on va faire un compromis entre les deux, ça devrait pouvoir marcher. Et c'est des gens qui sont tiraillés. Ce sont des gens qui sont dans un écartèlement en permanence. Alors que on sait très bien que Dieu veut nous donner la paix à l'intérieur. Une réconciliation d'abord avec lui, une réconciliation avec les autres, et puis une réconciliation avec soi-même. Parce qu'il y a des gens qui croient que Dieu peut leur pardonner, qui peuvent éventuellement être pardonnés ou pardonner aux autres, mais qui n'arrivent pas à se pardonner eux-mêmes. Je ne peux pas me pardonner. Ce n'est pas possible. Ce que j'ai fait, c'est impardonnable. Eh bien, moi, je voudrais vous dire que tout est pardonnable. Ouais. Si on croit, tout est pardonnable. Et on peut finalement, eh bien, entrevoir une nouvelle existence. Alors, ce que Paul veut nous laisser entendre cet après-midi, c'est qu'il y a un danger dans la vie des hommes. C'est de ressasser, tout simplement, des souvenirs douloureux. Les bons, c'est pas un problème. Quand je pense au bon moment de ma vie et de votre vie, vous pouvez dire, c'est formidable. J'étais jeune, j'étais beau. Je suis toujours intelligent. Mais, naturellement, hein, ça c'est... Et il y a des bons moments, il faut les garder. Vous savez, les bons moments, ce que l'on fait, parce qu'on a les moyens de le faire aujourd'hui, par rapport aux gens qui vivaient avant nous, c'est qu'on a des albums photos. Enfin, on a des appareils photos, mais même plus d'albums maintenant, c'est sur Internet. Alors, quand on revoit les enfants dans la petite enfance, et puis les vacances, etc., etc., quelquefois on dit c'était quand même des bons moments. Et les anciens disaient toujours c'était le bon temps. Mais le bon temps, il est toujours là. Parce que finalement, autant que la vie avance, si nous voulons prendre les choses du bon côté, ça sera toujours le bon. Maintenant, il y a des gens qui ne voient que le côté négatif. Et ils se sont enfermés, ils ressassent, ils repassent en permanence des souvenirs douloureux. Et ça nous fait penser à ce qui nous est dit dans un psaume, quand il est dit ceci, « Je me disais, je suis bien malheureux. Et tant que je vais me dire que je suis bien malheureux, je resterai malheureux. » Puisque je suis en train d'entretenir et de cultiver mon jardin de douleur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vrai. J'arrose pour que ça pousse. Eh bien, ça va pousser. Et on a vu des gens qui ont passé toute leur existence à se rappeler tout ce qui leur est arrivé de négatif. Eh bien, ils n'ont que comme résultat qu'une vie négative. Ils ne peuvent pas avoir de perspective. Ils ne peuvent pas dire, eh bien, j'espère qu'il y aura quelque chose de meilleur. Demain, il fera beau. Oui. Demain, je vous le dis, il fera beau. Hein. Mais toujours est-il... J'ai regardé la météo. Mais bon, toujours est-il que il y a... C'est vrai, on peut se renfermer soi-même et ressasser. Vous connaissez le verbe ressasser. C'est de repasser. C'est-à-dire que notre pensée est complètement omnibulée. Elle est complètement fixée, ou elle est fixe, que dans un sens. Et Paul nous dit non, attendez. Hein. Il le dit pour lui-même. Il dit, mais moi, en quelque sorte, oubliant ce qui est en arrière, eh bien, je cours vers l'avant. Et c'est une bonne solution. Donc, les souvenirs douloureux, qu'est-ce que nous en faisons? On en a tous. Moi, je ne crois pas qu'il existe un homme, ou une femme, ou une personne quelconque, qui puisse dire, moi, j'ai eu une vie tellement heureuse, je n'ai jamais connu rien de mauvais, rien de mal, j'ai jamais été malade, j'ai jamais eu un accident, je n'ai jamais perdu mon travail, je n'ai jamais eu de déboire ou de dispute avec personne. C'est pas possible, ça n'existe pas, hein. Ça accroche à un moment ou un autre, hein, de toute façon. Hein. C'est comme ça, tout simplement. Alors, les souvenirs. Qu'est-ce que nous faisons de ces souvenirs? Nous allons les empiler les uns sur les autres et nous allons nous nourrir de cela, nous allons les cultiver? Non, c'est pas une solution. La Bible nous dit que nous avons la possibilité, si nous le voulons, de faire une croix sur notre passé. Oui, vous savez ce que c'est qu'une croix? La croix, dans le symbole biblique et évangélique, c'est un symbole de mort. Jésus est mort sur une croix. C'était un lieu de supplice, mais c'est pas nous qui sommes allés sur la croix, c'est lui qui est allé à notre place. C'est ça la différence. Et à la croix, on peut se décharger. Sur Jésus, on peut lui apporter toutes nos misères, notre histoire, parce qu'il les connaît, hein. Faut pas se faire d'illusions. Dieu sait tout. Il sait si bien ce qu'il me faut. On le connaît, hein. On connaît ce petit chant, on l'a chanté il y a un instant. Et on s'aperçoit que celui qui sait faire cela, eh bien, va pouvoir se déchaîner, oui, c'est ça, c'est le mot, rompre les liens qui l'enferment. Et la croix, c'est véritablement ce que Jésus nous dit, en quelque sorte, quand il appelle les gens qui sont malheureux, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Vous qui êtes sur un passé qui est invalidant, qui vous empêche de vivre, de respirer. » Eh oui. Alors, ça c'est la solution qui nous est donnée à travers la Bible. Et puis, je reviens à Paul. On peut dire que Paul était un homme qui avait vraiment une histoire chargée, hein, lourde, écrasante. Et il l'exprimera d'ailleurs, hein, il dira, voilà, hein, j'étais ceci, j'étais cela, j'ai fait ceci et cela, mais il parlera de son histoire quand il la prendra en considération, les bons et les mauvais côtés, il dira, mais toutes ces choses, je les regardais comme des gains, comme un avantage, comme une glorification de moi-même en disant, je suis quelqu'un de formidable. Oui, il était pharisien, et il avait vraiment l'esprit d'un pharisien, c'est-à-dire d'un homme orgueilleux, hautain, et qui pensait que finalement le monde était à lui. Mais à un moment donné, donc avec ce bouleversement qu'il y a eu, il dira, et avec les mots qui sont quand même assez fermes, hein, assez forts, il dira, je les ai regardés comme une perte, je les ai regardés comme de la boue, parce qu'il a eu honte. Il y avait deux choses qui caractérisaient Paul, c'est qu'il n'avait pas honte de l'évangile, mais il avait honte de ce qu'il avait fait. Il parlera à un moment donné dans l'Épître aux Romains, il dira, mais quand je regarde ma vie passée, eh bien, je rougissais, il prend le mot. Et quand on rougit, c'est parce qu'il y a une émotion. Une émotion souvent de peur, de crainte, de toutes sortes de choses, mais ça peut être une émotion qui nous ramène à ce que nous avons fait de mal. Et quand on rougit, c'est un signe quelque part que, eh bien, on ne veut plus de ça. On ne veut plus se laisser enfermer dans tout cela. Alors, cette histoire, eh bien, c'était la sienne, et il emploie des mots qui sont forts, des pertes, comme de la boue. C'est-à-dire qu'il ne voulait plus tenir compte de ce qu'il avait vécu. C'est sûr qu'il en gardait le souvenir, mais il ne voulait pas que ce souvenir-là l'empêche de vivre au présent et l'empêche de vivre l'avenir, tout simplement, parce qu'il devait rester encore quelqu'un de potentiellement jeune. Et vous savez, ce qui est terrible, c'est que souvent, eh bien, notre histoire que nous avons du mal à nous libérer, nous empêche de vivre le moment présent et nous empêche de vivre l'avenir aussi. Combien de gens sont arrêtés sur une forme de parking, une sorte de parking, en disant « je peux pas aller plus loin ». Parce que, voilà, c'est pas possible. Ils n'osent pas. Et il y en a un qui véritablement fait en sorte que les gens restent malheureux dans l'état dans lequel ils sont. Vous savez, moi je pense à Paul quand il nous dit qu'il était un persécuteur. Un persécuteur c'est quoi? Enfin c'est qui plutôt? Un persécuteur c'est un meurtrier. C'est un criminel, comme on en entend parler tous les jours. Hein. On en entend parler, hein, jamais le monde et l'information nous a autant parlé de, hein, d'extrémisme, de fanatisme, d'intégrisme, et puis de ce que vous voulez, hein, tout ce qui va avec. Hein. Et des gens qui se glorifient d'avoir fait ce qu'ils ont fait. Hein. Quand vous entendez... voilà, ils vous disent, mais moi, je tue pour la cause de Dieu. C'est vraiment des malades graves, hein, sévères. Hein, et c'est comme ça. Et à la fin de la guerre 39-45, les nazis disaient, mais nous n'avons fait qu'obéir aux ordres. C'est pas nous, c'est les autres. Hein, c'est la hiérarchie, c'est le gouvernement. Mais aucun remords, rien du tout. Hein. Et certains peuvent être encore, eh bien, pouvaient se dire, eh bien, si les choses pouvaient se reproduire, eh bien, on le referait encore. Hein. C'est ce qu'on appelle le néo-nazisme, les nouveaux nazis, qui sont prêts à remettre un peu les choses, hein, et ils se sont pas finalement départis, aucune repentance, rien du tout, hein, rien du tout. C'est terrible, ça. Et Paul était un homme un peu comme ça. Et nous nous apercevons qu'il avait une âme de criminel, tout simplement. Mais il n'était pas tout seul, hein. Il y en a eu dans la Bible des histoires. Mais ils ne sont pas restés, ils sont pas restés criminels. Moi, quand je pense à Moïse, par exemple, le grand Moïse que, hein, beaucoup d'hommes dans tous les temps et à travers toutes les religions vénèrent, eh ben, c'était un criminel. Oui, dans un emportement, dans une colère, il avait tué un Égyptien. Ah, voilà. Voilà. Et puis, il y en a eu d'autres comme ça, hein. David, le roi David, était aussi un criminel pour une histoire de sentiment pour une femme qui n'était pas la sienne. Je veux pas rentrer trop dans les détails, mais là, ça lui a fait du mal. Hein. Et il s'est repenti, hein. Il n'a jamais recommencé. Alors, moi je m'imagine que Paul, quelquefois, puisqu'il était devenu chrétien et qu'il prêchait dans différentes communautés, quelquefois il a dû se retrouver devant des veuves et des orphelins, dont il avait peut-être tué le père. et il prêchait l'évangile, il prêchait la grâce, il prêchait l'amour de Dieu. Il ne devait pas être très à l'aise. Eh oui. Et pourtant, c'était un homme qui avait su demander pardon à Dieu, aux hommes et à tous ceux qui l'avaient fait souffrir. Mais c'était des circonstances. Il aurait pu dire, moi je ne veux pas être apôtre, je ne veux pas être prédicateur de l'évangile parce que je peux me retrouver en face de ces gens-là. Comment je vais pouvoir lever les yeux devant la souffrance que j'aurais infligée? Non, Paul était un homme qui ne voulait pas se laisser lier parce que la parole dont il était le porteur, le messager, c'était une parole qui n'était pas liée. Et aujourd'hui, peut-être, il y a des choses dans lesquelles nous sommes arrêtés en disant, j'ai tellement honte de ma vie. J'ai tellement honte de ce que j'ai fait. J'ai tellement peur d'être jugé, et peut-être même plus que cela. Eh bien, je ne pourrais pas aller plus loin. Eh bien, je voudrais vous dire que Moïse est devenu le prince d'Israël, le grand législateur du peuple d'Israël que nous avons connu. Le roi David est demeuré le roi d'Israël. Et Saul de Tarse, criminel qu'il était, est devenu le grand apôtre de l'amour. Comme quoi, si on reste sur le passé, eh bien, on n'avancera jamais. Ça, c'est sûr. Et ça, c'est peut-être justement, quelquefois, les problèmes que nous avons dans notre propre vie. En disant, Seigneur, je pourrai jamais faire ça. Seigneur, je pourrai jamais aller plus loin. Seigneur, parce que tu connais mon histoire. Mais le Seigneur la connaît, notre histoire. Et s'il nous a appelés, c'est pour nous dire, maintenant, je te donne une nouvelle histoire. Tu peux recommencer une nouvelle histoire. Tu peux commencer une nouvelle aventure, mais avec moi. Et tu vas voir, parce que contrairement à ce que nous pourrions penser, et ce que souvent les religions inculquent et enseignent, c'est que Dieu ne pardonne pas. Eh bien moi, je dis à la lecture de la Bible que Dieu est un Dieu de pardon. Un Dieu qui renouvelle la vie. Un Dieu qui est capable d'aller chercher les prostituées. Vous savez ce que c'est ? Pour en faire des femmes saintes. Il est capable d'aller chercher des criminels comme Paul, pour en faire des hommes de bien. Il est capable d'aller chercher des alcooliques invétérés dans nos rues pour en faire des hommes changés et transformés. Il est capable de prendre des voleurs et des menteurs pour en faire des gens honnêtes. Et c'est ça notre Dieu. C'est ça le Dieu de l'Évangile. Parce qu'à partir du moment où il n'y a plus de possibilité, la vie a été comme ça, mais la vie peut changer. La vie peut être tout autre. Mais pour ça, on a besoin de Dieu, parce qu'on n'y arrivera jamais tout seul. Alors c'est pour ça que l'apôtre Paul pouvait écrire ça, parce que lui, quand il se souvenait, « J'étais et je suis devenu ». Vous vous souvenez de ce que nous avons dit ce matin au culte ? Le grand message de Paul, c'était un mot, « Deviens ». Oui, « Deviens ». C'est-à-dire que notre vie peut avoir un autre cours, une autre direction, et là, nous sommes des êtres changés et transformés. C'est ça ce que Dieu veut, naturellement. Je voudrais, par rapport à ce que Paul nous dit, quand il dit ceci, « Je pense, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers l'avant. » Voilà, vers l'avant. Souvent, quand j'ai fait le commentaire de ce texte, et je l'ai fait souvent, il suffit de regarder, et je l'ai cité, il suffit de regarder les athlètes, dans l'athlétisme, voilà, excusez-moi que je mette les choses dans le bon ordre. Les athlètes à la course. Alors, il y a différentes compétitions de course à pied. Hein. Vous savez, quand ils sont sur les starting blocks, ils vont attendre le coup de sifflet. Enfin, je ne sais pas comment ça se passe. Moi, je ne suis pas un athlète. Hein. Mais toujours est-il que ils ont un but, c'est devant eux. Que ce soit un marathon ou que ce soit une course de 100 mètres, eh bien, ils regardent devant eux. J'ai jamais vu un athlète regarder derrière. Hein. Parce que à partir du moment où il regarde derrière, il a perdu. Hein. L'autre, il l'a dépassé. Et ça, je crois que c'est intéressant de montrer que, de faire la démonstration, que si nous voulons avancer, si nous voulons finalement, eh bien, rentrer dans le plan de Dieu, il faut jamais regarder derrière soi. Hein. Jésus le prendra comme conclusion, un petit enseignement. Il dit, le laboureur, finalement, avec sa herse, ses puits, ses bœufs ou son cheval, quand il tresse un sillon. Eh bien, celui qui regarde en arrière, eh bien, finalement, son sillon, il va être comme ça. Et il y a beaucoup de vies de gens qui sont en zigzag. Parce qu'ils sont toujours en train de regarder en arrière, toujours en train de regarder sur les côtés, mais on n'avance pas quand c'est comme ça. Et si nous sommes vraiment partie prenante de regarder devant nous, mais le Seigneur va nous conduire, il n'y a aucun problème. Mais il y a souvent quelque chose qui nous empêche, on l'a déjà dit, je le répète, ce sont les blessures de l'existence. Et elles sont nombreuses. Ça peut être des blessures d'enfance. Oui. Vous savez, quand on entend la misère parfois de certains enfants, ils ont été bousculés, ballotté, violenté, mal aimé, rejeté, ça fait beaucoup, hein? Ça fait beaucoup pour un petit être, hein, en devenir, pour un enfant, un petit garçon, une petite fille, hein. Quelquefois, ce sont des faits qui sont indépendants de tout le monde. Ça peut être la guerre. Moi, je pense actuellement là, à tous ces enfants qui sont en Ukraine, en Syrie, etc. Il y en a beaucoup qui ne sont plus, hein, parce qu'on les a exterminés. C'est terrible, hein, à pleurer un autre monde. Hein. Mais on peut dire qu'il y a aussi beaucoup de souffrance. Ça peut être les erreurs de notre jeunesse. Oui, nous avons commis des fautes quelquefois. Parce que quand on est jeune, souvent on réfléchit après. Il y a tellement la passion, la découverte, cet enthousiasme de manger la vie, on dit ça, hein. Je ne sais pas si on va la manger, c'est peut-être elle qui va nous manger, mais toujours est-il qu'il y a ça, et ça nous empêche quelquefois de réfléchir. On a été prévenus souvent par nos parents, ou par les gens plus anciens, on nous dit « fais attention parce que là il y a un trou, là il y a un obstacle ». Mais souvent, qu'est-ce qu'on a fait? On a couru finalement tête baissée, et on s'est pris le mur. Ce sont les fautes de jeunesse, et on peut tous en faire. Et puis, il y a les mauvais choix de la vie. Les mauvais choix de la vie, c'est que on a pris des options qui n'étaient pas les bonnes, sachant peut-être que ce n'était pas les bonnes, tout en ayant été averti que ce n'était pas bon, mais on y a été quand même. Et puis, il y a des choses qui arrivent indépendamment de nous-mêmes. Hein, il y a des choix que nous avons faits et que nous avons été contraints de faire. Et à l'usage, dans la vie au quotidien, on s'est aperçu que ce n'était pas ça du tout. Les choix de la vie, ça c'est terrible. Et les choix de la vie sont très importants. Une profession, on peut en changer. C'est vrai. Il y a des choses qui sont interchangeables, mais il y a des situations qui vont laisser des traces. Vous savez, aujourd'hui, moi, je ne suis pas un juge, hein, pas du tout, hein, mais on voit les constatations, parce que souvent, nous, les pasteurs, et puis les chrétiens que nous sommes, nous avons les résultats après. C'est comme le médecin, en quelque sorte. Le médecin, quelquefois, il prévient les gens, et il y a beaucoup de propagande, et il y a beaucoup d'informations sur la santé, sur toutes sortes de choses, hein, voilà. Et les gens, il y a des choses qu'ils font, hein, et ils le font, ils vont en avoir des conséquences. Bon, on parle beaucoup du tabac, on parle de l'obésité, on parle de la nourriture, les graisses, etc., etc. Vous avez déjà entendu parler, non? Oui, quand même, hein. Ça va, hein. On entend parler. Et après, les gens vont se plaindre en disant « Docteur, bah écoutez, je commence à avoir... Quand je me regarde, j'ai changé ma garde-robe au moins 5 fois en 8 jours. Ça fait beaucoup, ça coûte cher. » Alors, il y a toutes sortes de choses comme ça, vous comprenez? Eh bien, sur le plan moral et sur le plan spirituel, c'est la même chose. Alors, on va pas voir le docteur, là, on va voir le pasteur. Et on dit « Mais voilà, j'ai fait une erreur, j'ai fait une bourde, vous pouvez pas savoir. » Je me suis marié avec quelqu'un qui ne m'aime pas et que je n'aime pas. Alors, vous savez ce qu'on dit? Quand le vin est tiré, il faut le boire. Et c'est dur. C'est dur, hein? Ben oui, mais c'est comme ça. Mais alors, bon, la société a trouvé des solutions. Vous vous aimez plus, vous divorcez. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Vous vous souvenez de madame la Samaritaine? 5 fois, 6 fois. Bon. Mais vous savez qui c'est qui trinque dans cette affaire, puisque on parlait de verre il y a un instant? Eh ben, ce sont les enfants. Ouais. Et ça, vous pouvez être sûr. Vous pouvez être sûr qu'il va y avoir de la casse. Et c'est déjà donner une fausse idée de la vie à ces enfants qui demandent qu'à avoir un papa et une maman. C'est l'ordre créationnel, hein. Vous ferez tout ce que vous voudrez. Vous pouvez marcher au plafond et tout ce que vous voudrez. C'est l'ordre créationnel. C'est comme ça. Alors, je vous parle pas du reste. Mais toujours est-il que on s'aperçoit qu'il y a toujours des victimes collatérales et ils souffrent. Combien de fois nous avons eu des enfants qui pleuraient, qui n'étaient que, on le dit, des valises, parce que leur vie, ça a été que, finalement, porter des valises de droite et de gauche, de droite à gauche. Et puis, on a rencontré aussi de jeunes adultes qui avaient une notion de pouvoir entreprendre leur vie, déjà une notion cassée, brisée, en disant, bon, moi, je peux pas me marier avec un homme parce que s'il est comme mon père, s'il est comme ma mère, dans l'autre sens, s'il est comme ceci et cela... Et là, vous avez cet idéal, cette beauté originale que Dieu a donnée chez un jeune homme ou une jeune fille. C'est complètement cassé, vous comprenez? Et souvent, ils préfèrent rester tout seuls. Mais en supportant une vie de solitude, une vie qui les détruit, parce qu'ils se disent, mais ça pourrait être autrement, ça aurait pu être autrement. Donc, il y a un passé douloureux, parce qu'il y a une histoire derrière, parce qu'il y a quelque chose... finalement, qui fait tellement de mal. C'est ce qu'on appelle les blessures de l'existence. Et qu'est-ce que l'on fait avec ces blessures de l'existence? On peut pas les jeter à la poubelle. Elles sont là, elles ne sont pas à l'extérieur de nous-mêmes, elles sont au fond de nous-mêmes. C'est terrible, hein? Il y a des choses que nous faisons, c'est vrai, sciemment, et dont nous sommes les auteurs et les responsables. Mais il y a aussi les choses que les autres nous ont fait et nous ont impliquées, et dont nous ne pouvons rien. Mais la blessure est toujours la même. Vous savez, c'est affreux, ça, hein? Mais dans les deux cas, que ce soit nous qui avons fait la faute, ou que ce soit les autres qui ont fait des fautes et dont nous sommes la victime, il y a une solution. Jésus nous la donne, la solution. L'apôtre Paul nous le dit. C'est le début de la solution. Oubliant ce qui est en arrière, maintenant je veux courir en avant, mais je ne cours pas tout seul, parce que si je cours tout seul, je n'y arriverai jamais. Le mal qui est en moi me rattrapera toujours, parce que souvent, on le voit autour de nous, le mal est plus fort que le bien, en apparence pour ceux qui sont tout seuls. Mais à partir du moment où nous venons vers Jésus, il le dit maintenant, eh bien je suis en Christ, il l'a dit, nous l'avons lu ensemble, hein. À cause de la connaissance de Christ, mon Sauveur, dira-t-il. Et à partir du moment où nous devenons chrétiens, nous sommes chrétiens, nous acceptons Jésus comme notre sauveur personnel, que nous demandons pardon de nos fautes, que nous nous convertissons à Jésus, pas une église, pas une religion, ça sert à rien tout ça, et que nous naissons de nouveau, alors à ce moment-là les choses changent. Là où je pensais que le mal ne pouvait pas changer, Dieu est capable de changer le mal en bien. En bien. Pourquoi nous parlons cet après-midi de cette manière? C'est que nous avons fait l'expérience. Moi, je sais que dans ma vie, le Seigneur a changé le mal en bien. Et ça fait 40 ans que ça dure, hein? Donc c'est solide. Autant que je veux que ça soit solide. Autant que je veux regarder finalement devant moi. Autant que je puisse être renouvelé par la foi en Jésus. Alors à ce moment-là, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et après, une vie professionnelle, une vie dans le ministère, une vie conjugale, une vie familiale, parce que nous avons aussi des enfants, eh bien je peux dire que le Seigneur n'a jamais cessé de nous bénir et de nous donner sa grâce. Et c'est une vie formidable. Faut le dire, dans un monde où on dit la vie est détestable, la vie est épouvantable, les gens appellent ça une vie de chien. Je ne sais pas pourquoi. Comment ? Il est heureux. Vous savez, les chiens d'aujourd'hui sont drôlement heureux. Ils mangent ce que d'autres ne mangent pas, hein. Il y en a qui seraient peut-être contents d'avoir les croquettes, hein. Ronron et Canigou, ça c'est vieux. Mais toujours est-il que c'est ça. Ouais. Et il y a des fois des animaux qui sont mieux traités que les hommes. Hein. Ça c'est sûr. Alors, qu'est-ce que l'on fait? On reste dans l'immobilisme, on ne bouge pas, on reste comme ça. Mais il ne faut pas que cette vie-là devienne une prison dans notre mémoire. Oui, une prison dans notre mémoire, ou la mémoire en prison. C'est terrible, hein, on ne vit plus quand c'est comme ça. Et ce qui est formidable à travers Jésus-Christ, c'est qu'il est venu changer nos pleurs et nos chagrins en joie et en allégresse. Vous le savez, c'est écrit ça, hein? Oui. Et c'est Jésus qui dira ça dans l'évangile de Jean quand il parlera d'une femme qui attend un bébé. Hein, il y a un petit bébé là avec nous. Il est mignon d'ailleurs. Ils sont tous mignons de toute façon. Et c'est les plus beaux pour la maman. N'est-ce pas? Hein? Mais toujours est-il que il montre que quand une maman attend un bébé, elle a attendu le temps nécessaire, hein, le temps normal. Et quand l'accouchement arrive, elle a des craintes, surtout quand c'est la première fois. Et il nous est dit qu'elle est dans l'angoisse à ce moment-là, elle angoisse parce que bon. Mais une fois que le bébé est né, toutes ces souffrances, et quelquefois des souffrances qui ont duré 9 mois, hein. On a connu des mamans qui sont restées au lit parce qu'il n'y avait pas le choix, fallait que, absolument. Et toutes ces souffrances, toutes ces appréhensions, toutes ces angoisses, toutes ces anxiétés, au moment où le bébé est là, elle est tellement heureuse d'avoir mis au monde un homme, un enfant, qu'elle oublie toutes ses souffrances. Eh bien, avec la conversion, c'est la même chose. La rencontre avec Jésus, c'est que lui, il efface tous nos chagrins, toutes nos peines, et il nous fait rentrer dans une autre dimension qui est la dimension de la joie et du bonheur. C'est vrai. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, et de ne pas nous renfermer finalement eh bien, dans cette prison de la mémoire, et qui nous ramène toujours en arrière. Alors, je voudrais simplement terminer notre petite réflexion cet après-midi, à travers simplement eh bien, ce texte, moi que j'aime beaucoup parce que il parle encore. Vous savez, quand on fait le bilan de la vie des hommes autour de nous, peut-être de notre propre vie, il y a cette parole d'Ésaïe, je lis ceci, quand Dieu regarde les hommes, quand Dieu regarde l'humanité, quand il regarde les hommes de notre temps, aujourd'hui, pourtant nous dans nos pays occidentaux, on a quand même on ne devrait pas trop se plaindre, parce que même s'il y a des difficultés, des problèmes, mais quand même à côté de d'autres, franchement, écoutez, et Dieu regarde, comme il regardait hier, il y a très longtemps, Israël. Israël était un peuple qui avait été béni, un peuple qui avait beaucoup de choses, qui avait des privilèges sur d'autres nations, et Dieu regarde et il regarde, il jette un regard comme un médecin peut jeter un regard sur un malade, il dira, mais de la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Notre société, notre monde est malade. Malade d'angoisse. Alors, s'il n'était pas malade d'angoisse, pourquoi consomme-t-il autant de médicaments? Pourquoi y a-t-il autant de psychiatres, autant de psychothérapeutes, autant de médecins pour l'âme, le corps et tout ce que vous voudrez? C'est qu'il y a quand même une raison. On va pas chez le médecin en disant, tiens, je vais vous dire un petit bonjour. Et puis, voilà, on va faire la causette. Hein. C'est pas comme ça que ça se passe. Hein. Et il ajoute ceci, ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pansées, ni bandées, ni adoucies. Vous vous rendez compte? L'état de notre monde aujourd'hui, mais l'état du monde de toujours. Et Dieu a compassion de ce monde-là pour le sauver. Et qui voudra entendre? Qui voudra dire, dans une situation telle que... on peut se tourner vers Dieu. Vous allez me dire, oui, se tourner vers Dieu, mais où il est? Je regarde à droite, je regarde en haut, c'est en bas ou en haut, je ne le vois pas. Mais bien sûr, on ne voit pas Dieu, mais ça n'empêche pas qu'il est présent. Parce qu'il nous a dit, je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. Et Dieu est esprit, nous sommes charnels. Nous sommes enveloppés dans un corps. Lui, il est incorporel, mais c'est pas pour ça qu'il n'existe pas. C'est pas pour ça qu'il ne parle pas. C'est pas pour ça qu'il ne s'intéresse pas à nous. Si les gens que nous ne voient pas, eh bien, ne s'intéressaient pas aux autres, ou ne s'intéressaient pas à nous, alors il n'y a peut-être pas grand-chose de fait. Hein. Il y a des gens qui veulent du bien aux autres, mais on ne les voit pas. Mais ils le font quand même. Eh bien, Dieu, c'est ça. Dieu est ainsi. C'est que Dieu est présent. Et si je l'invoque, si je prie dans mon cœur, je n'ai pas besoin d'aller voir un curé ou un pasteur, je n'ai pas besoin de rentrer dans une église pour prier. Je peux prier maintenant, à cet endroit, ou ailleurs, dans la rue. Dans ma voiture, dans ma maison, et de dire « Seigneur, je suis si malheureux. Je suis tellement là, perturbé par mon histoire, par mon passé, par ma vie d'hier ou d'aujourd'hui, mais Seigneur, viens à mon secours. Invoquez-le tandis qu'il est prêt, et Dieu nous répondra. » C'est ce que nous dit le livre du prophète Ésaïe. Et puis, Dieu parle et nous dit cette parole pour nous rassurer et nous réconforter. Écoutez, moi, ça a toujours été une parole extraordinaire pour moi. Car les anciennes souffrances seront oubliées. Vous vous rendez compte que c'est possible que vos anciennes souffrances, que votre peine et vos chagrins, que les meurtrissures, que les blessures, que tout ce qui vous a écrasé, tout ce qui vous a piétiné, tout ce qui vous a finalement pilonné, on peut dire, eh bien ça peut être oublié. Les anciennes souffrances seront oubliées, et Dieu nous dit, elles seront cachées devant mes yeux. C'est-à-dire que Dieu ne regardera plus ces choses-là, et vous les verrez plus non plus. Parce que, car je vais créer des cieux nouveaux et une nouvelle terre, et on ne se rappellera plus des choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez toujours dans l'allégresse, car à cause de cela, à cause de ce que je vais créer, eh bien Dieu est créé et capable de créer une nouvelle vie. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, un temps où il n'y aura plus de terre, il n'y aura plus les cieux que nous connaissons. Mais il y aura une nouvelle terre et des nouveaux cieux, nous dit le livre de l'Apocalypse, où il nous est dit qu'il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de larmes, la mort n'existera plus, la maladie n'existera plus. Apocalypse, chapitre 21, vous pourrez le lire, c'est marqué, et moi je le crois ce qui est marqué. Et à ce moment-là, eh bien, il y a une espérance formidable. Pourquoi le monde meurt-il aujourd'hui? Pourquoi les jeunes n'ont plus d'espérance, ils n'ont plus de vision? Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'espérance. On est au bout d'un régime et d'une société qui touche le mur. Les gens sont désabusés, les gens sont malheureux, ce qui amène finalement, eh bien là, toute une armée d'hommes, de femmes, de jeunes gens, de jeunes filles, même d'enfants et de vieillards, à se suicider, parce qu'il n'y a plus rien devant nous, devant eux. Et pourtant, Dieu nous dit qu'il est capable de créer quelque chose. Mais cette nouvelle terre et ces nouveaux cieux, ça viendra, c'est notre espérance. Il y a une chose qu'il veut faire, c'est créer un cœur nouveau. En nous, de créer une conscience nouvelle et purifiée, de créer un esprit nouveau à l'intérieur de nous-mêmes. Et je peux vous dire que quand tout est changé à l'intérieur de nous-mêmes, c'est le monde qui change autour de nous. Et ça, c'est le miracle de l'Évangile. C'est le miracle de la parole que Paul prêchait hier. Alors, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, eh bien, je cours. Vous savez courir. Vous faites du jogging. Moi, quand je cours, je m'essouffle. Je laisse mon épouse courir. Voilà. Mais surtout qu'elle marche plus vite que moi, quelquefois, je lui dis, attends, moi, j'ai les petites jambes. Non, mais elle le sait. Alors, c'est pour dire que quelque part, si nous restons à l'arrière, eh bien, ça ne peut pas aller. Mais je cours pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de nouveau à l'intérieur de nous-mêmes. Alors, ces anciennes souffrances, Dieu nous dit, je les oublie. Alors, la question qui se pose avant de terminer, je finis maintenant, est-ce que véritablement nous voulons ouvrir notre cœur à Jésus? Est-ce que nous voulons lui déposer les fardeaux trop lourds? Notre histoire, notre passé, fermer nos albums de photos, tout ce qui est négatif, ouais, et de garder le meilleur, et de dire, eh bien Seigneur, eh bien maintenant, je te fais confiance. Vous savez qu'il y avait de quoi se désespérer, hein, parce que Jésus a été crucifié. C'était la désespérance, même les disciples qui suivaient Jésus ne croyaient pas qu'il avait pu se laisser assassiné de cette manière. Et vous savez ce qui s'est passé? C'est qu'alors que tout le monde pensait qu'il était mort, Jésus est ressuscité. Et c'est ça, finalement, ce qui est extraordinaire. Et nous pouvons dire quelquefois, nous nous sentons morts, mais Dieu est capable de nous donner une nouvelle vie, un renouvellement de vie. C'est pour ça qu'être chrétien, c'est être dans la joie, avoir du dynamisme, et ne pas être là avec un visage complètement défait. Regardez comme je suis heureux, je suis chrétien. Bah, dites donc, vous allez enchanter les gens, hein. Nous sommes heureux comme nous le chantons, c'est parce que finalement Jésus est notre sauveur et nous sommes heureux d'être chrétiens, parce qu'il y a quelque chose de formidable. Et le monde dans lequel nous sommes a tant besoin d'entendre cette parole de l'Évangile, parce que c'est une espérance merveilleuse pour le temps présent et pour l'éternité. Oubliant ce qui est passé, maintenant je regarde devant moi et je regarde à Jésus. On prie quelques instants, simplement. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ta parole, pour ta bonté, ta fidélité. Il y a tant d'hommes autour de nous qui sont là, Seigneur, à traîner véritablement des fardeaux qui sont trop lourds. Il y a des hommes qui portent, Seigneur, tant de choses, et des choses qui font du bruit, des choses qu'ils traînent derrière eux péniblement. Mais Seigneur, ta bonté, ta fidélité nous a été révélée à travers ce message cet après-midi, pour nous dire que, comme Paul, qui avait une histoire, une véritable histoire chargée, eh bien, Seigneur, lui, il a compris qu'un jour, il ne pouvait plus vivre comme ça. Il ne pouvait plus supporter d'être dans des liens, dans des chaînes de sa vie, son existence précédente. Mais à un moment, il a compris que quand Jésus est venu dans sa vie, eh bien, il lui a ouvert son cœur. Il lui a donné toute la place dans son esprit, dans ses sentiments, à travers, Père éternel, sa volonté, ses émotions. Et qu'à ce moment-là, Seigneur, tout a changé pour lui. Merci, Seigneur, parce que tu es encore un Dieu de pardon. Tu es toujours un Dieu de pardon. Alors, nous te remercions, Seigneur, parce que tu nous as pardonné si nous t'avons demandé pardon de nos péchés. Merci, Seigneur, parce que nous pouvons aussi être capables de pardonner à tous ceux qui nous ont fait du mal. Et nous, peut-être, demander pardon à ceux à qui nous avons fait du mal. Mais, Seigneur, aide-nous à nous pardonner nous-mêmes, en sachant, Seigneur, que tu veux rétablir véritablement un équilibre dans notre vie. Et puis, tu nous guéris, Seigneur. Tu nous changes, tu nous transformes. Parce que la vie n'est pas finie. La vie commence. Elle peut commencer, elle peut recommencer. Et nous voulons te remercier, Seigneur, parce que tu es vivant et tu es fidèle. C'est toi qui crées le vouloir et le faire, selon ton bon plaisir. C'est toi qui crées un cœur pur et un esprit bien disposé. Eh bien, c'est notre prière. Crée un cœur pur et un esprit bien disposé. Aide-nous vraiment à tourner les regards vers toi. Toi, tu marches devant nous. Nous te regardons marcher devant nous et nous voulons te suivre. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.